Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Antoine Cardon.
Bonjour Nathalie.
Alors nous terminons un peu, je dirais, cet anniversaire des 30 ans et j'invite vraiment les auditeurs à être peut-être éveillés, curieux et lire cette encyclique si elle n'a pas été lue. Alors cette encyclique, il y a trois grands chapitres, dont un deuxième chapitre sur la question aussi de la conscience. La question de la conscience, c'est un problème avec la loi et avec la vérité, Antoine Cardon.
Oui, ben ça suit ce qu'on a dit. Hein. Si on a un problème avec la vérité, on a un problème avec la loi. Si on a un problème avec la loi et la vérité, eh ben la conscience, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans?
Alors, comment accéder à la lumière de la vérité?
Voilà, la conscience, elle doit s'appuyer sur la vérité. C'est un acte de jugement. C'est elle qui dira, est-ce que c'est que ce que je fais, est-ce que l'acte qui est posé correspond, oui ou non, à la vérité? Maintenant, s'il n'y a plus de vérité, le gros problème d'aujourd'hui, Jean-Paul II insiste dans cette deuxième partie du deuxième chapitre sur cette conscience, on commence à créer. Il y a des positions théologiques au sein même de l'Église, il parle même des séminaires en eux-mêmes, puis on le voit, ça pullule. On a vraiment un problème avec cette notion de la conscience. Et il y a une lecture de Vatican II aussi où il parle de la conscience, mais voilà, il faut revenir à la sève et Vatican II. Et Veritatis Splendor est vraiment une sève pour faire attention aux mauvaises lectures qu'on peut faire. Il est clair qu'il y a une réinterprétation de la conscience qui est faite, une conscience créative, il nomme ça comme ça, qui est faite et qui n'est pas juste, qui n'est pas ordonnée. La conscience, elle n'est pas là pour prendre des décisions, elle est là pour juger. Ce n'est pas à la conscience de dire ce qui est bien, ce qui est mal, ou de faire le pour le contre, ou de s'appuyer. Il parlera du conséquentialisme et du proportionnalisme, par exemple, voilà, où c'est des matières où on va créer une conscience, on va créer le bien et le mal, par rapport à. Pas par rapport à la vérité, en tout cas. Voilà. Et à ce moment-là, on devient dans une conscience erronée et on ne voit plus. Alors c'est un impact énorme.
Je dirais que les conséquences, là, avec une conscience erronée, sont dramatiques.
Oui, parce qu'on sort de la vérité, on sort du salut, c'est clair. Voilà. Autant la conscience, elle est là pour juger. Si on a fait quelque chose de mal, elle le voit, on le sait. Porte ouverte au repentir. Tout est bien, Jésus est là, on peut y aller, on demande pardon, on y va.
Oui, là où le péché abonde, la grâce surabonde,
disait Saint Paul. Oui, tout à fait. Oui. Il y a pas de.
Donc,
y a aucun.
On ne condamne pas, Dieu ne condamne pas, je dirais, non. Dieu ne condamne pas les pécheurs.
Non, oui, dans ce sens-là, évidemment. La miséricorde est infinie, tout ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais Dieu, bien sûr, Dieu invite tout le monde, il est toujours possible de se sauver si on se tourne. Mais vous comprenez bien que si la conscience est erronée et de base, alors ça pose un grave problème, parce qu'on ne peut plus voir ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc on ne peut plus se repentir correctement.
Discerner, je dirais, le bien du mal, on ne peut plus même nommer l'état de péché, si petit soit-il.
Exactement, et c'est là où on touche.
Vénial ou mortel, on parle aussi dans l'encyclique.
Oui, on y vient, d'accord. On y vient, il faut lire, ça nous donne des pistes ouvertes pour revoir la question, mais oui, si on n'a pas. Je disais, si on n'a pas cette conscience droite, on ne peut plus adhérer à la vérité et s'ouvrir au salut. Voilà. Et un des problèmes aussi, c'est que, notamment par rapport à la question du péché mortel, du péché véniel, ce qui me semble, c'était moi la question dans Le Jeune Homme Riche aussi, qu'est-ce qui est important? C'est pas de savoir si on est dans un état de péché mortel ou un état de péché ou non. L'important, c'est de se mettre devant cette réalité, il y a un ciel. Il y a un enfer, je compte sur Jésus, ou je compte sur mes propres forces. Et c'est ça. On se met devant cette réalité et on se tourne vers Jésus. Celui qui a commis un péché mortel et qui le voit, très bien. Il n'y a plus qu'à se tourner vers Jésus. Il sera sauvé, il n'y a pas de souci. Celui qui pense ne pas avoir commis de péché mortel et qui espère être en état de grâce, d'abord, il ne peut pas en être sûr. C'est le Concile de Trente qui nous le dit. Nul, sous peine d'anathème, ne peut dire qu'il est en état de grâce. Donc c'est un espoir fondé. il y a une certaine loyauté, on se met devant cette réalité, on s'interroge, on se regarde, mais pas pour se regarder soi, pour regarder Dieu, pour s'ouvrir. Et si je pense être en état de grâce, je peux aller communier, j'en suis pas certain non plus. Mais je joue le jeu de me confier à Dieu. Que Dieu, Seigneur, mets-moi en état de grâce si je suis pas. Je suis prêt à jouer le jeu. Voilà. Ça, c'est la grande question du péché mortel, la manière dont on l'aborde. Et effectivement, si on l'aborde pas dans ce sens-là aussi, eh ben on va chercher à se justifier. Bon, c'est la porte ouverte à la culpabilisation. Voilà. Et donc, porte ouverte aussi, toute cette théologie ou cette appréhension de la question du péché mortel qui vient esquiver. Maintenant, le péché mortel, quand on parle du péché mortel, ça devient quelque chose de vraiment très abstrait, très loin, même quasiment impossible à faire. Il y a une dichotomie qui s'est faite. Alors que non, quand on lit la tradition, tout ça, c'est quand même un peu plus profond, un peu plus dense que ça. Mais Jean-Paul II nous rappelle qu'il y a des actes qui sont par eux-mêmes des péchés mortels. Effectivement, il faut qu'il y ait plein consentement, propos délibérés matière grave. Mais tout ça serait peut-être à réfléchir, à définir. Qu'est-ce qu'une matière grave, tout ça, et notamment sur la conscience. La conscience. Aujourd'hui, quelque part, allez, j'en fais en gros, on dit, il n'y avait pas conscience, le gars. Mais pourquoi il n'avait pas conscience? Mais s'il a tué sa conscience, ça ne l'excuse pas. Il ne savait pas parce qu'il n'a pas voulu savoir. Il y a ça aussi qu'il y a à prendre en compte. Et notamment, il parle de ce qu'on appelle l'option fondamentale qui a été reprise à tort et déformée aujourd'hui, visiblement un peu dans la pensée moderne. L'option fondamentale, c'est-à-dire qu'on fait un choix pour ou contre Dieu au-delà de tous les actes qu'on peut faire. Voilà, je reprends par exemple saint Thomas d'Aquin qui disait le premier acte libre d'un enfant non baptisé, c'est ou un péché mortel ou un acte vertueux. Il se fixe dans sa fin ultime. Ce sera Dieu, ce sera la vérité ou non, ce sera autre chose, ce sera... On a tous ça, c'est l'acte d'option fondamentale qui est pris. Mais après, qui se concrétise dans des actes. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin ce que dénonce Jean-Paul II, c'est qu'on a fait... il y a cet acte d'option fondamentale qui est une chose, et puis après les actes de la vie qui sont autre chose. On a coupé un peu le lien. Du coup, on ne se sent pas en danger, on n'a pas ça, on n'a pas besoin de crier au secours, on n'a pas besoin du mystère de la croix, et on ne peut plus être sauvé. Non, Jean-Paul II nous réaffirme, non, il y a des actes concrets qui engagent notre fin unique, notre option fondamentale. Voilà, il y a une dénature qui a été faite de cette notion-là. Ce que je retrouve, moi, dans le dernier chapitre, il redit encore la même chose, hein, ça toujours tourne autour de ça, il y a des superbes paroles sur le martyr et qui témoignent de ça. Et Jean-Paul II, avec son souci de l'évangélisation, il faut qu'on se mette tous face à la vérité aussi, si on veut évangéliser, si on veut que nos frères puissent rencontrer le Christ. Il faut leur dire la vérité. Mais si on ne dit pas la vérité...
Donc il faut oser.
Oui, il faut avoir ce courage de dire... l'évangile, ce n'est pas rigolo, c'est libérateur.
C'est le courage de la vérité ou le courage d'avoir peur d'annoncer, à temps et contre temps, comme l'ont fait, les premiers apôtres,
c'est ça.
À saint Paul.
C'est ça.
Et puis tous ces martyrs qui sont inscrits dans l'histoire biblique, l'histoire de l'humanité et de l'Église.
Pour être sauvé, il faut avoir besoin d'un sauveur. Et si on ne veut pas reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur, on ne peut pas être sauvé. Voilà. Et que notamment sur cette pastorale, l'enjeu de la pastorale aujourd'hui, ce n'est pas de concilier, de contourner cette radicalité évangélique. Non, c'est de la rappeler. Et puis après, ceux qui veulent la suivre, de les aider. Et ceux qui ne veulent pas la suivre encore, de les aider à un jour pouvoir se convertir. Mais attention, il ne faut pas gommer cette radicalité, parce que là, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, si l'évangélisation, ça ne marche pas, c'est la grande question qu'on doit se poser tous, parce qu'on a tous, on aura tous à rendre des comptes là-dessus. Est-ce que je suis fidèle à ça? Et voilà, et Jean-Paul II nous le dit clairement, les catholiques qui transgressent la loi ou qui vont à l'encontre de ça, défigurent le Christ, ainsi que les prêtres et les évêques. Qui n'hésite pas à reprendre et à reprendre l'évangile à Saint-Paul.
Au fond, vous avez relu depuis 30 ans, tous les ans, depuis 30 ans, cette encyclique.
Ça me fait du bien, en fait, oui.
Je vois,
j'en prends plein les gencives, mais ça fait du bien.
La conversion est au bout.
Bah, ouais. C'est pas fini, il va falloir que je réalise encore, mais il y a de l'espoir.
Je dirais merci infiniment de votre intervention cette semaine, pour ce partage aussi, puisque depuis 30 ans, Veritatis Splendor fait partie, je dirais, de votre quotidien.
Oui.
Oui. Cette encyclique de Jean-Paul II, il termine sur Marie. Permettez-moi de conclure un peu avec la fin de cette encyclique, oui. Où
juste
il écrit...
Une petite chose, je suis très frustré parce qu'il y avait tellement de choses à lire, j'aurais tellement aimé lire les passages. Si au moins j'ai pu donner le goût d'aller voir de près, ce serait super.
Merci infiniment. Marie partage notre condition humaine, mais dans une transparence totale à la grâce de Dieu. N'ayant pas connu le péché, elle est en mesure de compatir à toute faiblesse. Elle comprend l'homme pécheur et elle l'aime d'un amour maternel. Voilà pourquoi elle est du côté de la vérité et partage le fardeau de l'Église dans son rappel des exigences morales à tous et en tout temps. Pour la même raison, elle n'accepte pas que l'homme pécheur soit trompé par quiconque prétendrait l'aimer en justifiant son péché, car elle sait qu'ainsi le sacrifice du Christ, son Fils, serait rendu inutile. Aucun acquittement, fût-il prononcé par des doctrines philosophiques ou théologiques, complaisantes, ne peuvent rendre l'homme véritablement heureux. Seule la croix et la gloire du Christ ressuscité peuvent pacifier sa conscience et sauver sa vie.
Amen.